À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'un vénérable, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en voie de béatification et finalement de canonisation. C'est le vénérable Khalil Haddad, ou un Libanais, donc un nom arabe, qui est mort en 1954, un capucin, donc un disciple de Saint François. Vous savez que les capucins sont une des branches du grand ordre fondé par Saint François d'Assise. Et les capucins sont réputés, ici au Québec, d'abord par la chapelle de la Réparation, que tout le monde connaît, dans l'est de l'île de Montréal, et aussi à différents endroits au Québec, et aussi comme missionnaire, particulièrement en Inde, où ils ont travaillé longtemps, jusqu'à tout récemment. Le vénérable Khalil Haddad est appelé aussi Jacques ou Jacob Haddad de son nom de religion. Khalil Haddad est né le 1er février, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1875, à Gazir. Je le signale parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui écoutent Radio Ville-Marie, car il y a beaucoup de réfugiés chrétiens, particulièrement catholiques, de différents rites, latins, maronites, grec-melkites, etc., et ou syriaques même. Et alors, il est le troisième enfant, donc, d'une famille nombreuse, ce jeune Khalil. Ses parents sont des couturiers modestes, sont de simples villageois, qui ont une foi solide cependant, puis une vraie foi. Il en était question dans l'émission tout à l'heure. A-t-on une vraie foi? Une foi qui se transmet, une foi qui s'affirme, une foi qui nous fait vivre, c'est le problème. Et heureusement, il est né dans une famille comme ça. Et le grand souci du père, en plus de devoir nourrir sa nombreuse famille, et d'offrir de bonnes études à son fils Khalil. Mais 6 enfants vont mourir en bas âge. Mais il y en a quand même encore 8 de vivants. C'est une famille assez nombreuse, hein? Surtout aujourd'hui. Son père, qui s'appelle Boutros, c'est-à-dire, si vous voulez, Pierre, n'est-ce pas? Haddad, Boutros Haddad, ne sait pas trop comment assurer leur éducation et tous ses enfants, évidemment ça coûte un peu cher, mais il ne regrette absolument rien. Sa mère s'appelle Shams, c'est-à-dire soleil. Elle est, quant à elle, remplie vraiment de Dieu. Puis, elle nourrit l'espoir de voir l'un de ses fils devenir prêtre, et pour cela, elle n'hésite pas à prier, évidemment, mais aussi à jeûner et à offrir tout son être et tout ce qu'elle fait à Dieu. Plus tard, d'ailleurs, Khalil Haddad n'hésitera pas à dire que, je le cite, « La maman est le sacrement de la maison, la vie qui donne la vie. » C'est ça une mère, hein? Il y en a une qui m'a téléphoné ces jours-ci, elle est médecin, 3 enfants, elle éduque ses enfants. Depuis 15 ans, elle a sacrifié sa carrière. La maman est le sacrement de la maison, la vie qui donne la vie. Alors, il nous laisse entendre par là, évidemment, tout ce qu'il doit à sa mère sur le plan de sa foi et sa vocation. Ses études secondaires terminées, bon, à l'âge de 18 ans, Khalil Haddad part en 1892 au Caire, en Égypte, évidemment, où il a de la famille, pour enseigner la langue arabe au Collège des Frères des Écoles Chrétiennes. Et c'est là que Dieu l'attend. Il ne s'en doute même pas. Non, sans doute pas. Il va un jour prier dans l'église Sainte-Catherine au Caire, où se célèbrent les funérailles d'un franciscain. Oh, j'ai même son nom, c'est le frère Jubrael de Jérusalem, mort à 42 ans. Et ce frère franciscain repose sur des tréteaux, vous savez, des tréteaux, là, devant l'autel. C'est très simple, très très simple, très pauvre, les pieds nus. Le chapelet, là, le rosaire, puis la croix entre les mains. Il a sous la tête tout simplement un fagot de bois. Et puis, c'est là que, profondément saisi par la grâce, Khalil Adha décide de remplacer ce jeune prêtre. Il se dit, moi aussi je veux être comme lui. Un prêtre meurt, un autre naît. Quelque temps plus tard, un nouvel épisode fait grandir et fortifie encore cette semence qu'il porte dans son cœur, ce jeune Libanais. Il rencontre un prêtre, qui malheureusement scandalise les gens, ça peut arriver évidemment. Or, Khalil Haddad ne connaît encore que les bons exemples des prêtres de sa paroisse. Et pour lui, un prêtre, c'est sacré. Il a bien raison. Le choc est fort. Mais la réaction plus forte encore, il dit « Je serai prêtre pour combler le vide que celui-ci a créé. » Alors, de retour au Liban, son pays, Khalil Haddad doit véritablement se battre contre son père, qui a beau être très croyant, pour lui arracher la permission d'entrer chez les Capucins. Comment ça? Pourquoi? C'est qu'à 4 reprises, ce jeune Khalil, très courageux, part au couvent des Capucins, et chaque fois, son père le ramène à la maison. Pourquoi? C'est parce que son fils soit prêtre ou religieux, il n'a aucune objection, mais aucune, mais pas dans cet ordre pauvre et austère, où les moines capucins vont nu-pieds à cette époque et dorment sur des cahorantes vieilles paillasses. Là. Évidemment, M. Boutros Haddad préférerait voir son fils professeur, au besoin, je ne sais, jésuite, dominicain. Mais Khalil s'obstine. C'est la vie que j'ai décidé de choisir, papa. Je veux tout simplement vivre pauvre et humilié comme mon Seigneur Jésus-Christ. Comprends-tu ça, papa? Alors l'Esprit de Dieu, on voit, a finalement raison. Petit à petit, de l'obstination de M. Haddad. Mais ce sont les larmes aux yeux, évidemment, puis le front barré de rides que cet homme accompagne son fils au couvent des Capucins. Le responsable du couvent, c'est un Français, le père Anatole de Montagnac. Montagnac, vous savez, ces Capucins portaient le nom de la ville d'où ils venaient. Montagnac, c'est près de Montpellier, là, dans le sud de la France. Alors, il est donc responsable du couvent, et puis responsable du noviciat surtout, et avec une simplicité toute franciscaine, bien, il demande à Monsieur Boutros Haddad d'aller prier devant la statue de Saint-Antoine de Padoue, qui fait bien des miracles, puis de prendre là sa décision finale. Et il s'y rend donc, puis à son retour, le cœur brisé, répond au supérieur, « Oui, oui, prenez-le. Prenez-le, je vous le donne, mon fils. » Alors, Khalil Haddad, quant à lui, bien, il va recevoir le nom de Jacques, comme je vous ai dit au début de l'émission, est heureux et fier et sûr de son appel. Il est convaincu de sa vocation. Il dit, « J'entre vivant et je n'en sortirai que mort. » C'est ce qu'il dit tout bas. Et voilà donc un novice, solide, décidé, qui a de la rigueur, hein, et puis plutôt sévère peut-être, et au début quoi, à cette époque austère, les Capucins étaient très stricts. Le père maître reprend sans pitié celui qui se rend coupable de la moindre infraction au règlement, du moindre retard aux différents exercices qui sont spécifiés par la règle et l'horaire de la journée. C'était comme ça, cette époque, il n'y a pas si longtemps. Et de plus, à la fois, supérieur de 50 étudiants, ce maître des novices est professeur de théologie, imaginez. Et il peut donc difficilement remplir ses fonctions auprès de son jeune novice pour le secourir vraiment. Alors il confie donc à l'un de ses nombreux étudiants en théologie la responsabilité d'initier Khalil Haddad à ce qu'on appelle les exercices spirituels. Alors cet étudiant se croit là investi de l'autorité suprême, puis il reprend le pauvre frère Khalil, ou si vous voulez Jacob Haddad ou Jacques Haddad, très brutalement, sans raison. Cet étudiant est vraiment étrange. Il n'a pour le pauvre jeune novice, il n'a pour lui que des paroles dures et désobligeantes. Alors le frère Jacques, Radad, endure tout cela avec une grande patience. Il répond toujours par un sourire, ou même une bénédiction. À travers ses souffrances et ses humiliations, on voit que l'Esprit Saint façonne son cœur et le fortifie. Il lui enseigne quoi? Cet amour de la croix qui conduit rapidement à la joie profonde, de la résurrection. C'est inséparable. Le chrétien ne souffre pas pour le plaisir de souffrir. Il accepte les souffrances parce qu'il y rencontre le Christ, plein d'amour, ressuscité. Et le frère Jacques ne laisse pas de vide dans son cœur, hein, et il n'y laisse pas de place pour les tentations qui pourraient détruire son amour du Christ Jésus. Ah, sa vie est vraiment centrée sur le Christ, il veut toujours rester uni à lui, il aime Jésus, qui le lui rend bien. Et c'est à l'âge de 26 ans qu'il est ordonné prêtre à Beyrouth, le 1er novembre 1901. Alors le frère Jacques exerce d'abord les fonctions importantes dans l'enseignement, puis il multiplie à travers le Liban, le pays, là, les écoles de la mission des Capucins. Et durant cette période, il est aussi un infatigable prédicateur itinérant. Il parcourt même tout le Liban pour y proclamer la parole de Dieu. Hein? C'est un catholique convaincu. Il veut réveiller les cœurs et spécialement leur faire comprendre aux gens. Leur faire comprendre et aimer l'Eucharistie. C'est un vrai prêtre. Alors il y a la guerre 1914-1918, vous savez tout ça. Et durant la Première Guerre mondiale, donc, la Turquie, alliée à l'Allemagne, occupe le territoire libanais et supprime l'indépendance du Liban. La situation du Liban est donc très grave, ça s'aggrave. Il y a la paralysie du port, manque de nourriture, de médicaments, de vêtements, la famine sévit, le typhus se répand. Et pour comble de malheur, il y a une invasion de sauterelles qui détruit toute récolte. Alors le désespoir règne dans le pays, où les morts ne se comptent plus. Et chez les Capucins, les religieux, ceux qui sont français, sont expulsés. Et le frère Jacques, qui est libanais, comme vous le savez, se retrouve alors à la tête de la mission. Il fait preuve d'un courage extraordinaire face aux situations les plus pénibles. Et il multiplie les services, toutes sortes de charités, là, auprès des plus démunis. Et puis, il organise des soupes populaires, ils font des orphelinats, des ateliers, des ouvroirs. Ah, il est très fidèle à Dieu. Hein? Il veut avant tout répandre la paix et les consolations. Et pour cela, il demande de rejeter toute forme de haine et de violence. Bon, ce qui n'est pas si facile dans ces pays où il y a des tensions. Hein? Et dans ces régions du monde où règne malheureusement, souvent dans des régions, l'islam. Alors le vénérable Jacques Radad Capucin stimule les chrétiens, surtout les âmes consacrées dont il est le directeur spirituel, à redoubler de générosité au milieu des difficultés qui règnent à ce moment-là, durant la première guerre, 14-18, là. Les difficultés qui règnent au Liban, et il écrit une lettre à une religieuse. « Si la misère augmente, que notre charité augmente aussi. » Il écrit aussi à une sœur le 2 décembre 1920. « J'ai remarqué que ma grande croix pendant de si longues années était pleine de joie et de consolation. J'ai remarqué que ma grande croix, pendant de si longues années, était pleine de joie et de consolation. » Ça explique bien ce que ce vénérable Jacob ou Jacques Haddad vit. Hein. Et la mésaventure la plus affreuse et presque miraculeuse dont il est victime a lieu alors qu'il se rend à Amana pour rendre visite aux sœurs du bon pasteur. Il n'en peut plus de cette marche à travers des gorges sauvages dans cette région-là, puis il passe près d'une maison isolée. Alors il demande de l'eau. Un homme, semble-t-il musulman, lui porte un verre plein d'un étrange liquide blanc. En fait, il voit bien que c'est un poison dangereux. Alors que faire? L'homme insiste pour le faire boire, mais le frère Jacques remercie, il a compris la manœuvre, il préfère continuer sa route. Mais l'autre insiste, jusqu'à le menacer avec un revolver pour l'obliger à boire cet étrange liquide blanc. Alors le jeune capucin se trouve dans une situation vraiment difficile. Il s'efforce de ne pas prendre contenance, de pas perdre contenance plutôt, et se confie à Dieu, puis il prend le verre. Alors il lui demande à l'autre, « De quel côté veux-tu que je boive? Ici, à gauche, ou là, à droite, ou bien là, devant toi, ou bien là, devant moi? » Et en faisant ça, ben il se trouve à marquer d'une croix le verre avec sa main. Hein? Ce à quoi le bandit répond, « Ah ben, peu importe, pourvu que tu boives. » Et là, le frère Jacques porte le verre à ses lèvres, jusqu'à la dernière goutte, sans problème. Ça rappelle un miracle qui s'était opéré 1500 ans plus tôt, quand Saint-Benoît, on avait essayé de l'empoisonner. Au lendemain de la Grande Guerre, à 44 ans, le 25 août 1919, la guerre s'est terminée, comme vous savez, en 18, on a signé l'armistice le 11 novembre, je crois. Alors, le père Jacques, ou le frère Jacques plutôt, car les Capucins s'appellent tous frères, n'est-ce pas, il acquiert un terrain sur la conille de Yal Hedib, à une dizaine de kilomètres au nord de Beyrouth. Il y dresse une immense croix. Il fait construire une chapelle et un bâtiment destiné d'abord à être un centre spirituel, le couvent de la croix. Mais une rencontre providentielle va bouleverser tous ses plans et le lancer dans une aventure qu'il n'a pas envisagée du tout, du tout, du tout. Appelé au chevet d'un vieux prêtre, il le trouve dans un état tellement misérable qu'il ne peut l'abandonner, puis il le ramène au couvent de la Croix. Et d'autres prêtres âgés délaissés suivent bientôt, qu'il confie à des sœurs franciscaines assistées de quelques jeunes filles libanaises. Et alors une nouvelle congrégation naît, ce sont les sœurs franciscaines de la Croix du Liban. Il se trouve à fonder ça sans le vouloir, et bientôt, son œuvre modeste commence à attirer toutes sortes de malades. Il y a des blocs distincts là qui doivent être créés, construits, si bien que l'hospice prend des proportions considérables et se transforme en un véritable hôpital aujourd'hui spécialisé en psychiatrie. Une chose qu'on oublie trop facilement, c'est que la charité, n'est-ce pas, se diffuse. Oui, la charité se diffuse et la haine détruit tout. Alors le mouvement amorcé ne va pas s'arrêter là. Hein. Trois autres hospices sont créés par le père ou le frère Jacques, Haddad, et de nombreux autres encore voient le jour dans la congrégation après sa mort. Et par ailleurs, parmi les œuvres de la congrégation, il faut encore signaler quoi? Ben des orphelinats, des écoles, etc. C'est fantastique. Une telle fécondité, une telle diffusion d'amour qui vient du cœur de ce capucin, c'est pour lui un fruit de la croix. Oui. Le frère Jacques déclare, c'est curieux comme tout pousse au pied de la croix. J'ai choisi la croix comme symbole de mon institut parce qu'elle est la pierre angulaire de mon cœur. C'est là que se révèle tout l'amour de Dieu, hein, dans le cœur de Jésus. L'amour de la croix de l'amour, la dévotion à la Vierge Marie aussi, le service des plus pauvres dans la fidélité à l'esprit franciscain vont être le cœur de cette nouvelle congrégation. Il dit bien, ce frère Jacques Haddad, vénérable, n'est-ce pas, comme je vous ai dit au début de l'émission, allez vers la croix, par la prière, le sacrifice et l'amour. Allez vers les hommes, image du crucifié, en donnant votre préférence aux plus déshérités. Alors le frère Jacques veille sur ses sœurs, ses filles, comme on pourrait les appeler, et il met tout son cœur à leur formation spirituelle qu'il veut franciscaine jusqu'au bout, hein. Il insiste sur la bonne entente, la charité, le don de soi. L'amour fraternel est la source qui alimente toutes les vertus, croit-il. Et ça, ça nous rend capables du don aux autres. Hein. Il le dit d'ailleurs, je veux que chaque religieuse se consacre pour sa sœur. Ça fait une communauté vraiment pleine d'amour. Il recommande une vie humble aussi, dans le silence et le recueillement. Et derrière son aspect rude, il y a l'air, quand on voit sa photo, d'ailleurs, il y a un regard, oh mon Dieu, un peu sévère. Mais on sait qu'il est bon, tout le monde le sait, qu'il est paternel. On sait qu'il est animé par cette force dit doux dont Jésus parle dans le sermon des Béatitudes. À une sœur en difficulté, il dit « Venez chez votre Père en toute simplicité, je suis tout à vous. Je suis prêt à vous écouter à n'importe quelle heure. » Il dit aussi « Ma fille, chaque fois que le démon chuchote à votre oreille, quelque chose ne le croyez pas. Il est menteur, c'est le père du mensonge. S'il revient encore une fois, dites-lui « Je vais vous dénoncer à mon père. » Alors, le vénérable frère Jacques Haddad a été formé à l'école de la Croix, chez les Capucins. Il sait ce que signifie la douleur. Hein. Il aime particulièrement les sœurs malades parce qu'elles portent dans leur corps la croix. Il dit « Vous m'êtes d'autant plus chère que vous êtes plus souffrante. » C'est vrai que dans le christianisme, il y a tout un élan du cœur depuis des siècles et des siècles vers les plus souffrants. À une sœur malade, alitée, il dit « Je te donne ma bénédiction, ma sœur. » Une bénédiction spéciale, différente de celle de tes sœurs, puisque dans la souffrance, nous ressemblons toujours plus à Jésus, amour. Il voit bien dans Jésus sur la croix l'amour qui se révèle. Puis il ajoute, plus notre douleur augmente et plus nous sommes semblables au Rédempteur, à condition évidemment d'aimer comme lui. Alors ce fils de Saint François, ce Capucin, est un véritable apôtre de la croix, non par amour des souffrances en elles-mêmes évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en ce qu'elles sont un chemin d'union intime au bien-aimé ressuscité. La plus grande croix, dit-il, est notre Père de la croix. Je répète cette phrase, c'est remarquable. La plus grande croix est notre Père de la croix. Il ajoute aucun bois, n'allume le feu de la charité dans nos cœurs plus fortement que ce bois de la croix. Si, évidemment, je jetterai notre regard et fixé sur le cœur de Jésus sur la croix. Hein? Le frère Jacques Haddad est toujours prêt à supporter toutes sortes de difficultés pour l'amour de son grand amour, la croix, avec Jésus. Il dit, vous voyez qu'au milieu des peines et des angoisses, il y a toujours un vent frais, une très précieuse grâce appelée consolation. C'est ce que dit le frère Jacques à une sœur éprouvée. Il écrit un jour à son provincial, ce petit monde des malades, placé au pied de la croix, ne sait qu'une chose, souffrir et prier. On souffre en priant, et on prie pour ceux qui ne savent pas souffrir. Oui, savoir souffrir, c'est aimer en souffrant, hein? Souffrir en aimant, quoi. À une sœur malade, il ne cesse de répéter, « Tu es une bénédiction dans la congrégation à cause de tes souffrances que tu endures avec tant d'amour et de tes douleurs continuelles. » Il sait en effet que la souffrance supportée en union amoureuse avec le Christ Jésus accomplit en nous une œuvre de transformation. C'est ça la clé, c'est la transformation, hein? À une de ces religieuses malades, il demande « Supporte tes souffrances pour notre conversion totale à Dieu, c'est-à-dire qu'on soit rempli d'amour. » Il dit aussi « Je me suis fait capucin pour ne pas posséder un centime, pour être pauvre. » Alors le choix des conseils que nous donne Jésus dans l'Évangile, les conseils évangéliques, est pour lui le chemin de la purification progressive, hein? Ce dépouillement intérieur qui fait qu'on est tout amour, et il se confie à la Providence. Il dit à ses sœurs, soyez sûres et certaines que notre maison s'écroulera si nous exagérons dans le superflu. Je ne veux que le nécessaire. Ce qui est vénérable, ce vénérable Jacques Haddad, donc, on le voit, est plein d'amour de la pauvreté, hein? Et cet amour s'exprime dans le choix d'une obéissance radicale. À cette époque, on était plus radical peut-être qu'aujourd'hui. Il dit, si mon supérieur me demandait de tout abandonner et de retourner vivre avec mes frères de religion, je suis prêt à obéir sans regarder derrière moi. Je ne suis pas attaché à mes œuvres et je retournerai au couvent. Mais je crois qu'il y a beaucoup de religieux qui pensent comme ça aujourd'hui. À sa sœur Rose qui est partie en Amérique, il écrit, en 1950, « Ne crains pas qu'il me manque des biens terrestres. Tout le monde est émerveillé de mes œuvres, même le gouvernement. Mais une seule chose m'inquiète. » Il se pose cette question extraordinaire. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de tout mon esprit? C'est vraiment ce qu'il faut toujours se demander au cru des œuvres que l'on peut accomplir quand on est chrétien. Une seule chose m'inquiète. Il le dit bien, est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de tout mon esprit? On voit également briller en lui cette vertu d'humilité. Il dit, l'ennemi n'a peur que de l'humilité. Le père Jacques sait demander pardon, même à des prêtres, puis des laïcs, évidemment. Il demande pardon souvent. L'Eucharistie, d'autre part, a la première place dans la vie de ce prêtre, le frère Jacques. Il épuise ses forces spirituelles. Il dit, le plus grand crime de notre siècle est l'abandon de l'Eucharistie. Il a bien raison. Le plus grand crime de notre siècle est l'abandon de l'Eucharistie. Il a médité devant Saint-Sacrement. Au sujet de la communion, il dit, « Si un roi te permettait de porter son fils dans tes bras, tu n'oserais le faire qu'après t'être lavé les mains, n'est-ce pas? Ce que les hommes font pour recevoir les grands. Pourquoi ne le faisons-nous pas pour accueillir Jésus? On se demande pourquoi on ne se confesse pas plus souvent. » Je souligne enfin sa dévotion à la Vierge Marie. « Marie est le chemin vers Jésus, dit-il. » Et c'est sa mère. « Marie est le chemin vers Jésus. » « Marie est le moyen. » « Jésus est le but. » « Marie est la voie. » « Jésus est le pays désiré. » Parce qu'en Jésus, nous trouvons son Père. Dans l'unité de l'Esprit-Saint, c'est la Trinité. Le frère Jacques conseille de prendre Marie comme mère et de rentrer dans l'imitation de sa sainteté. Alors, malgré l'usure des fatigues, des veilles, puis de toutes sortes de choses qu'il fait, malgré aussi des maladies de toutes sortes, il devient aveugle, presque complètement. Puis, en plus de ça, il souffre de leucémie. Eh bien, le frère Jacques Haddad ne s'accorde presque pas de repos. Et c'est dans la plus grande paix, finalement, même dans des actions de grâce, qu'il attend sa mort. Il dit, on a rapporté ses paroles, pour moi, la mort est une joie et une consolation parce que je sais que j'irai rencontrer mon Père au ciel. En mourant, je ne ferai que passer d'une chambre à l'autre. Je suis devenu un hôpital ambulant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, je dis ambulant car malgré mes infirmités, je continue à tenir sur mes pieds et à parfaire mon travail. C'est un peu comme le pape Jean-Paul II, qui est un hôpital ambulant. En effet, alors que le frère Jacques Haddad sait que sa fin est proche, bien, il passe ses derniers mois à consolider sa congrégation, puis c'est dans la paix, finalement, et la sérénité, que ce saint prêtre capucin rend son âme à Dieu le 26 juin 1954 à 3 heures de l'après-midi, en déclarant qu'il est doux de mourir. Jésus, Marie, Joseph, ô croix du Seigneur, ô bien-aimé du cœur, ô mère de Dieu, ô Jésus, ô Marie, ô Joseph. Et le frère Jacques Haddad est reconnu vénérable, comme je vous ai dit, le premier degré vers la béatification et la canonisation. Il sera déclaré saint, espérons-le un jour. Il a été déclaré donc vénérable le 24 février 1979. Et le pape Jean-Paul II a signé donc ce jour-là le décret d'introduction de sa cause de béatification. Il y a de nombreux témoignages de faveur, de guérison, d'exaucement de toutes sortes qui témoignent aujourd'hui encore de sa grâce et de sa puissance comme intercesseur auprès de Dieu. Il y a une plaquette qui a été éditée par le père Riscalla, intitulée « Père Jacques Haddad, capucin libanais ». On pourrait peut-être trouver ça dans des paroisses libanaises, comme la paroisse Saint-Sauveur à Montréal. Une personne a écrit d'ailleurs en 1961, « Je souffrais d'une otite aiguë et le spécialiste craignait pour mon audition. c'est-à-dire pour son ouïe. J'ai commencé une neuvaine, et le neuvième jour, je me mis à entendre de cette oreille beaucoup mieux qu'avant, car ayant été opéré d'une mastoïdite à 16 ans, je n'entendais presque rien du côté gauche. Je reste persuadé du pouvoir du frère Jacques, c'est un exemple. Pour certains jeunes auditeurs qui souhaiteraient, des gens qui ont entre 20 et 35 ans, qui songeraient à se faire capucin, je rappelle qu'il y a 12 000 frères capucins répartis à travers tous les continents sur la Terre. Et le responsable de la pastorale vocationnelle, puisque c'est la semaine des vocations, ils peuvent s'adresser à la chapelle de la réparation au 3650 rue de la Rousselière dans l'est de Montréal. Je vous donne le numéro de téléphone à Montréal, 514, évidemment, le code régional, 642-5391. 642-5391. Il y a aussi au Liban de nombreux autres personnages que l'on vénère, comme la bienheureuse Rafka ou Rebecca, une maronite dont je vous parlerai le 23 mars. Il y a le vénérable père Naham Tal Ardini, qui était le père spirituel de Saint-Charbel Maclouf, dont je vous ai parlé la veille de Noël. Il y a le frère Estfen Némé, dont le corps est demeuré intact depuis sa mort. Il est mort en 1938. Oh, il y a la bienheureuse Mariam Bawardi, dont je vous ai déjà parlé, cette petite arabe, morte en 1878, et tant d'autres. Mais je voudrais vous dire quelque chose, comme nous le signale dans un article paru, aussi comme l'article qui m'a servi à faire cette émission jusqu'ici, c'est paru dans la revue Feu et Lumière. Excellente revue Feu et Lumière, publiée par la communauté des Béatitudes. C'est le père Pierre-Marie Soubéran qui a publié d'ailleurs un livre sur l'islam, édité par la communauté des Béatitudes. Je ne saurais trop vous recommander ce livre, par le père Pierre-Marie Soubéran, S-O-U-B-E-Y-R-A-N-D. C'est intitulé « Islam ». Il y a quelques années au Liban, vous savez, il y a des villages chrétiens dans le sud comme Makdoché, qui sont devenus le champ de bataille entre Palestiniens et chiites. Les Palestiniens, qui ont été, pour ainsi dire, chassés d'Israël et par les Juifs, n'est-ce pas? Puis il a subi le même sort que des dizaines de villages chrétiens libanais, c'est-à-dire l'Exode. Ces villages qui perdent leur âme, comme plus de 500 villages en Israël qui ont été exterminés par les Juifs. La souffrance des chrétiens de ces régions est terrible. Pensez à l'Égypte, où il y a souvent des flambées entre les chrétiens coptes, qui sont séparés de l'Église, ou catholiques, il y en a qui sont catholiques, puis les musulmans extrémistes. Je parle bien des extrémistes chez les musulmans, et non pas les autres musulmans. Les musulmans extrémistes qui refusent aux chrétiens en Égypte le droit de construire une église ou d'être citoyens à part entière dans leur propre pays. Alors, pour avoir la paix, ben les autorités arrêtent indistinctement les chrétiens puis les musulmans parce qu'ils ne savent plus trop quoi faire devant ces extrémistes. Il y a les extrémistes au Nigeria aussi. Et au Soudan, c'est absolument terrible. Vous le savez, les nouvelles nous le disent ces jours-ci. Vous savez que les musulmans s'emparent des chrétiens pour en faire leurs esclaves. Je vous en parlerai bientôt. Je vous parlerai d'une esclave qui est devenue religieuse finalement en Italie. Une soudanaise. C'est extraordinaire la vie de cette sœur, qui était esclave des musulmans au Soudan. Et ce ne sont pas là que des événements lointains, c'est pas si loin que ça, la terre est toute petite maintenant, on le sait, les avions nous ramènent en un clin d'œil dans ces pays si on veut y aller. Il y a tellement d'exemples, mais les chrétiens, nous, d'Occident, nous sommes si mal informés sur les réalités de cet islam contemporain et sur les souffrances de nos frères chrétiens, que nous ne disons presque rien devant l'islam qui nous envahit, parfois avec des extrémistes, quelques extrémistes ici et là, qui sont très durs, vous savez. Et la condition de nos frères chrétiens de ces pays là-bas apparaît tout à fait secondaire. On n'y pense plus. Et y compris dans la presse catholique, on n'ose rien dire, de crainte d'avoir l'air de se plaindre de persécution. On préfère donner l'autre joue, offrir l'autre joue, mais c'est pas notre joue que l'on offre. C'est la joue de ces chrétiens là-bas, qui souffrent. Ils ont des revendications, et puis, on sait pas quoi faire. Et les musulmans font des revendications en France et au Québec pour toutes sortes de choses. Et nous sommes portés à leur accorder parce que notre cœur est grand et nous avons raison. Mais jusqu'où peut-on aller? La plupart des États islamiques sont aujourd'hui confrontés à un islam pur et dur, hein, et souvent les musulmans ne savent plus quoi faire devant ces autres musulmans qui sont extrêmement durs, qui ne pensent qu'à la guerre et aux bombes et aux djihad, à la guerre sacrée, à la guerre sainte. Ça constitue une menace interne dans ces pays musulmans, mais ça constitue aussi une menace pour les chrétiens. Et ces musulmans extrémistes sont de plus en plus nombreux. Ont la prétention de vouloir se propager jusqu'aux extrémités de la terre, s'il le faut par les voies de la violence que nous connaissons. C'est effrayant. Et ces six courants fanatiques ne sont pas parvenus au pouvoir comme en Iran, Libye ou Soudan, où ils ont le pouvoir. Ils veulent l'avoir en Algérie aussi. Eh bien, leur but avoué est bien la prise du pouvoir. C'est pourquoi ils ne cessent de maintenir des troupes confessionnelles puis d'inquiéter les autorités civiles musulmanes elles-mêmes, qui essaient de leur résister. Même les pays, comme je vous l'ai dit, l'Algérie ou la Turquie, qui se dirigeaient vers une constitution de type laïque où les chrétiens avaient la liberté, ils doivent, sous la pression des extrémistes musulmans, revenir à la charia. Vous savez ce que c'est, hein, ce code coranique, ce droit musulman. Terrible. Un voleur, on lui coupe la main, quoi. Et on exécute assez facilement de certaines personnes. C'est imposé finalement à tous les citoyens, y compris les chrétiens. Ainsi, le chrétien devient un citoyen de seconde zone dans ces régions. Alors, il subit diverses vexations, des persécutions, qui leur rendront la vie si difficile qu'il ne leur reste plus quoi que le choix de l'exil. Et c'est pour ça que nous en avons beaucoup ici. Nous les accueillons avec joie. Ce sont des gens merveilleux, ces chrétiens des pays musulmans qui viennent ici d'Égypte ou de Palestine ou du Liban ou de Syrie. Il faut qu'ils s'accoutument autrement, progressivement, à l'islam s'ils veulent demeurer là-bas. Et finalement, il y en a beaucoup, plus qu'on pense, qu'ils disparaissent dans la masse musulmane, dans cette société islamique qui les absorbe. Car depuis 14 siècles, je dis bien 1400 ans, nos frères chrétiens ont résisté depuis l'apparition de l'islam. Mais aujourd'hui, ils sont à bout. Et les États occidentaux, et parfois notre Église d'Occident, envisagent des solutions de facilité. On veut démissionner, on préfère ne rien dire, et moi je parle aujourd'hui, j'ose. Ah, on veut laisser le Moyen-Orient puis les pays islamiques aux musulmans. Tandis que nos frères chrétiens de ces pays seront dispersés parmi les nations dites chrétiennes. Et ils perdront leur terre, leur sol, leur peuple. C'est d'une tristesse. Vous savez que, il n'y a pas si longtemps, le nonce apostolique au Liban, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape, pour être plus clair, était porteur d'un message du pape Jean-Paul II. Et il affirmait que le Vatican, l'Église catholique, quoi, ne céderait devant aucune pression et n'accepterait pas la disparition des chrétiens du Liban. Le pape ose parler. Et ce petit réduit chrétien, oh mon Dieu, qui était 55% de la population du Liban il n'y a pas si longtemps, devient aujourd'hui un symbole très important pour tous les chrétiens dispersés dans le monde arabo-musulman. Et en effet, nos frères chrétiens, dit le père Subéran, ne sont plus libres d'exister comme chrétiens en terre d'islam, d'accéder souvent à certaines responsabilités professionnelles ou publiques, ou de construire une église, ou de se réunir même pour célébrer le culte. On arrête des prêtres en Arabie Saoudite pour avoir célébré la messe dans des appartements privés. Oui, on les jette en prison. Et à Tripoli du Liban, non seulement les fanatiques musulmans ont interdit de sonner les cloches pour Noël, mais encore de décorer les maisons des familles chrétiennes. Et pendant ce temps, à Tripoli de Libye, Kadhafi, lui, offre un banquet puis des cadeaux de Noël aux chrétiens. Alors il se fait photographier et il ne s'apparaît dans notre presse et l'on croit que ces gens-là sont très gentils à notre égard. Ah, prenons en compassion nos frères chrétiens, catholiques, orthodoxes ou coptes qui vivent dans ces pays. Il faut aujourd'hui nous élever contre une désinformation de l'Occident devant la réalité envahissante et totalisante de l'islam. Nous connaissons très mal, d'une part, l'existence de ces communautés chrétiennes qui datent du début du christianisme. Ce sont des communautés chrétiennes apostoliques qui sont submergées par l'islam dès le 7e siècle. C'est terrible. Terrible. Nous a encouragés, nous, catholiques, à l'estime puis au respect, particulièrement vis-à-vis de l'islam. Et cela a ouvert le champ chez beaucoup de gens qui ont, ici en Occident, voulu étudier l'islam. Et il y a des instituts d'études islamiques extrêmement importants à Rome, qui sont catholiques, et où les gens apprennent l'arabe et le Coran, même par cœur, etc. C'est absolument admirable. Moi-même, j'ai fait de nombreuses émissions favorables, dans un certain sens, à la connaissance de l'islam dans tout ce qu'il a de plus beau. Je vous en ai fait ici à Rencontre spirituelle. J'ai fait une émission sur Rumi, ce grand mystique. Mais ça finit par occulter tout ça, une réalité de plus en plus durcie de l'islam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ose dire ce que je dis. Parce que le Concile Vatican II a donné des consignes très précises pour l'orientation d'un vrai dialogue. Mais ça a aussitôt été dépassé et ça a versé dans un soi-disant respect qui fait fi de la vérité, et je m'en accuse devant l'auditoire parce que je n'ai pas dit assez tôt ce que je dis aujourd'hui. J'ai même diffusé à la télévision de nombreuses émissions sur l'islam plutôt favorables. Quand j'étais réalisateur à Radio-Canada, mais l'image la plus parlante de cette déviance, ce sont en particulier des choses comme une rencontre islamo-chrétienne de Tripoli provoquée par le bouillant Kadhafi en présence du cardinal Pignedoli, qui a dû, lui, ce cardinal, faire une rétractation publique d'une déclaration commune qui a été diffusée à la fin du congrès, parce que le Vatican, depuis ce temps-là, s'est refusé à toute manifestation de ce genre, qui ne fait pas droit à la vérité, ni à l'existence chrétienne, car il y a des chrétiens en pays musulmans qui doivent être libres et égaux. Plusieurs évêques orientaux, on les appelle comme ça, orientaux, c'est du Moyen-Orient, quoi, qui ont beaucoup de mal à être entendus en Occident, pensent qu'il ne peut pas y avoir un vrai dialogue islamo-chrétien, mais qu'il faut nous en tenir à un respect réciproque. Comment ça? Parce que c'est très délicat, vous savez, c'est très, très délicat. À l'adresse des églises d'Occident, ces évêques demandent le droit de la réciprocité. En effet, les chrétiens d'Occident sont généreux pour donner, prêter des églises. On le fait en France, au culte musulman. Alors, les ouvriers musulmans dans des usines en province française, ils sont seuls, leurs femmes sont encore en pays musulman avec les enfants. Et là, ils se réunissent, ces hommes, dans une église où on retire le très saint sacrement et on couvre les statues de voile. Et on permet ainsi aux musulmans de prier dans des églises parce qu'ils n'ont pas d'endroit. Et on permet l'enseignement coranique dans des écoles catholiques même. Mais nous, ces droits-là nous sont refusés. Les chrétiens orientaux n'ont aucun droit de cette sorte. Y aurait-il donc deux islams? Pourquoi? Pourquoi faut-il que les talibans et puis l'esprit de Khomeini puis de tous ces gens-là priment? Pourquoi faut-il que ce soit le djihad islamique dont on parle tout le temps? Mais c'est terrible aussi. Et ces frères musulmans qui apparaissent sous leur véritable visage comme sont conquérants, violents, durs, purs, comme ils disent. Qu'est-ce qui se passe? Le seuil critique auquel est parvenu l'Occident, il me semble, peut entraîner dans l'engrenage de la violence. Vous savez qu'on vient de voter aux États-Unis 50 milliards de dollars, je crois, pour se prémunir contre toutes sortes de violences. Ça peut être des attaques bactériologiques, des bombes et toutes sortes de choses. Le chrétien ne peut se laisser entraîner sur cette pente glissante. Nous ne voulons pas de violence. Et notre attitude à nous, chrétiens, face aux pressions de plus en plus envahissantes de l'islam, ne peut se faire au détriment de la vérité. C'est la vérité qui doit primer chez nous, car la vérité, c'est le Christ. Et l'attitude des martyrs me semble la plus juste. Ils ont su mourir sans rien renier de leur foi. Ils ont su mourir en pardonnant à ceux qui les privaient de leurs droits les plus élémentaires. Tous ces gens qui les condamnent, qui les tuent parce qu'ils sont chrétiens. C'est le pape Jean-Paul II qui exhorte les chrétiens libanais à ne pas rendre le mal pour le mal, mais au contraire à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, dit-il. Et ces paroles prennent un sens très réaliste quand on sait les spoliations puis les massacres que nos frères du Liban ont vécu. Mais le pape dit à ne pas être timide quant à la défense des droits de l'homme et du chrétien en particulier. Je fais appel à tous les musulmans de bon cœur qui pourraient peut-être m'écouter, de se lever, de nous défendre. La parole de Dieu ne dit-elle pas plutôt, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, et c'est à ce prix-là. Comme chrétiens, nous devons être convaincus que la vérité de l'Évangile est libératrice et que le seul chemin du salut passe par Jésus et Jésus crucifié, comme nous l'a dit aujourd'hui ce vénérable Jacques ou Khalil Haddad. Oui, ça passe par Jésus et Jésus crucifié. Que le Père du ciel n'a qu'une seule parole, ne l'oublions pas. Son Fils, c'est sa parole. Et le Dieu le Père, c'est l'année de Dieu le Père, hein, qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut. Alors il est temps, comme le demandait le pape Jean-Paul II, d'annoncer l'Évangile à ces populations migrantes non chrétiennes qui viennent vivre parmi nous. Ils viennent chercher du travail et vivre sur notre sol. Eh bien, il faut qu'on témoigne de notre foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique qui est tout amour. Et nous, chrétiens, il faut annoncer l'Évangile, seule source de paix dans un monde raidi par la peur et fasciné par la violence et le fanatisme. Il faut que nos frères musulmans sachent que l'amour doit primer et que nous vivons, nous, de cet amour. Ah, Jésus le dit bien, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, soyez prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Or, la vérité puis la vie de la bonne nouvelle de l'Évangile, il me semble, ne doit prévaloir sur toutes les puissances du mensonge, de destruction et de mort des extrémistes musulmans. Oui, la lumière, lui, dans les ténèbres, dit le Père Soubéran. Il le rappelle. Hein? La lumière, lui, dans les ténèbres, c'est une parole de Saint Jean. Et le Père Soubéran, en nous rappelant ces vérités, il sait de quoi il parle. Il a vécu des années, plus de 10 ans en pays musulman. Il connaît très bien la langue arabe. Connaît très bien l'islam, qu'il apprécie. Mais il faut bien dire à nos frères musulmans que nous voulons être respectés et nous voulons que nos frères soient respectés dans leur pays. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il faut vraiment vivre de l'amour du Christ. Il faut vraiment vivre de cet amour qui transforme le monde.